Vieille Branche, une production Nouvelles Écoutes en partenariat avec Radio Nova.
Donc, il faut rappeler, en effet, que les choses n'ont pas toujours été comme ça, que des victoires ont été remportées, que c'est fragile, que... Il faut continuer à raconter.
Pour cet épisode de Vieille Branche, je ne suis pas allée voir une vieille personne. Non, j'ai convoqué des souvenirs et des chercheurs, des pensées personnelles et des bouts d'interviews de Michel Perrault, de Daniel Defer ou de Georges-Paul Angevin. Depuis quelque temps, avec Marine Rowe, la productrice de Vieille Branche, on réfléchit sur le thème de la mémoire. Elle est au centre de ce podcast, de ce qu'on veut faire depuis le début, une sorte de collecte de paroles importantes avant que le temps ne les efface. Quand j'interviewe différentes personnes sur la guerre d'Algérie, par exemple, j'entrevois les entrelacs complexes et passionnants qui se dessinent entre mémoire collective et mémoires individuelles, entre expériences personnelles et récits officiels. Je voulais partir de l'intime, parce que depuis quelques années, je vois mon père, atteint d'une maladie dégénérative, lutter avec sa mémoire. Il peut oublier ce qu'on s'est dit il y a 5 minutes et tout d'un coup réciter un poème adoré et connu depuis longtemps, comme le tombeau d'Edgar Allan Poe de Mallarmé.
Tel qu'enfin l'éternité le change, le poète suscite avec un glaive nu son siècle épouvanté de n'avoir pas connu que la mort triomphait en cette voie étrange. Eux, comme un vil sursaut d'hydre, voyant jadis l'ange, donner un sens plus pur aux mots de la tribu, proclamèrent très haut le sortilège.
Cet été, au milieu d'une conversation en pointillé, il m'a par exemple tout à coup demandé de retrouver une chanson dont il connaissait toutes les paroles par cœur et que depuis l'enfance, je ne l'avais jamais entendu fredonner.
Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above.
Pour m'aider à la retrouver, il a été capable de me sortir tous les titres présents sur le vinyle des Brother Four, car c'est comme ça qu'il s'appelle ce groupe, je l'ai finalement retrouvé, et la chanson c'est Springfield, disque qu'il doit posséder et qui est sans doute quelque part chez moi mais que je n'avais jamais vu. C'est fascinant ces allers-retours de cette boîte noire. Dans le cas de mon père, c'est parfois difficile d'avoir accès à celui que je crois avoir connu. En revanche, ces interventions inopinées de sa mémoire me donnent accès à une autre part de son identité que je connais un petit peu moins. Finalement, ce sont quelques mots du livre de Laure Adler, La voyageuse de nuit, qui ont définitivement lancé ma réflexion.
Ma mère se souvient de sa haute enfance, mais pas de la question qu'elle vient de me poser. J'ai appris, pas à pas, à entrer dans les labyrinthes de sa nouvelle mémoire. D'ailleurs, la mienne est-elle supérieure à la sienne ? La mémoire, le fait que nous ayons encore une mémoire qui marche, constitue-t-elle notre seule carte d'identité ? On demande souvent, quand on parle des personnes âgées, a-t-il encore toute sa tête ? Est-on seulement ce qu'on a fait, ce dont on se souvient avoir été ? Quand on oublie qui on a été, de quelle texture était sa propre vie, que devient-on ?
Vieille branche chez moi.
Vieille branche.
Une vieille branche.
C'est vraiment bon, une vieille branche.
Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour, vous écoutez Vieille branche. Pendant une heure, je vous emmène chez un homme ou une femme dont les souvenirs racontent notre histoire.
J'ai pris une fois de la cocaïne, ça ne me fait rien.
De tout, de la
vie. Je suis encore désirable.
Évidemment que c'est important.
Récolter ces paroles aujourd'hui, c'est aussi précieux qu'absolument nécessaire. Parce que depuis 4 ou 5 ans, chaque année qui passe rend cette citation d'Antoine Gramsci plus limpide, parfaitement adaptée à la drôle d'époque qu'on vit. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et pour les terrasser, ces monstres, ou au moins les tenir à distance, voire même les apprivoiser, écouter les mots de nos vieilles branches, qui forment ensemble notre mémoire collective, c'est un véritable bouclier.
Ah, vieille branche !
Nous allons discuter sans tabou, mais avec bienveillance de leur vie, de l'amour, de la mort, de ce monde qu'ils ont connu et qui n'est presque plus, de leurs souvenirs d'enfants, de leur adolescence, de leurs amis, de leur passion pour l'art, la musique, les mots, la politique, du regard qu'ils portent sur l'époque, sur les jeunes, sur les combats qui se préparent. Parce que la beauté de l'âge, c'est qu'il libère la parole, et c'est ça que vous entendez dans Vieille Branche. Je suis Marie Misset, et aujourd'hui vous écoutez une réflexion sur ce qui se trame entre mémoire et identité.
J'ai réappris des textes, puisque moi j'aime bien apprendre. Ce matin, par exemple, prenait le rôle de plusieurs rôles, le rôle de mafio et dans de Lucrèce Borgia. J'aime bien faire ça pour entretenir ma mémoire.
Oh,
C'est, je sais pas comment je dirais ça, moi. Je suis bien obligé, je n'allais pas dire de vivre avec. Bon, je m'attendais, je pensais pas du tout dépasser 90 ans. J'ai plus, allez, disons les choses. J'ai plus peur du truc genre Alzheimer, Parkinson, que je n'ai peur.
Chaque âge a une richesse et chaque âge existe et il faut l'accepter. Et chaque âge, il faut le vivre pleinement, quoi.
N'est-on que la somme de ses souvenirs ? Est-ce la mémoire qui fait l'identité ? Cette question, je la devine infiniment complexe, mais elle m'intéresse autant sur le plan intime que sur le collectif. Si on efface la mémoire de quelqu'un, est-il encore lui-même ? Si on efface la mémoire d'un peuple, a-t-il encore une identité et la possibilité d'un futur ? Je me suis dit que la parole d'un philosophe sur mémoire et identité s'imposait. Alors j'ai zoomé Tristan Garcia, qui est philosophe et écrivain, pour qu'il m'éclaire un petit peu sur le sujet.
Sur la question philosophique, oui, c'est drôle parce que c'est à la fois une très vieille question et une question moderne, ce sont les deux. C'est une vieille question parce que c'est une question qui est débattue depuis, disons, le XVIIe siècle. Et en fait, ce qui pourrait être étonnant, c'est qu'on a l'impression que c'est une question très intuitive de se demander est-ce qu'une personne, c'est la somme de ses souvenirs, c'est sa mémoire. En fait, c'est pas une question qu'on se pose avant le XVIIe siècle. D'abord, je crois, la principale raison, c'est que c'est lié à l'émergence de la question de la personne juridique. C'est lié à des problèmes juridiques. C'est-à-dire, qui est une personne, qui, par exemple, est en droit de prendre certaines décisions, quant à son héritage, quant à ses propriétés. Donc, c'est une question qui va se poser avec l'émergence de la personne de droit, plutôt qu'avec la question, disons, du sujet. C'est seulement au XVIIIe siècle que la question va se poser par les deux bouts, par l'enfance et par la vieillesse. Parce que, évidemment, si on dit ce qui va être la position de John Locke, par exemple, l'identité personnelle, c'est la mémoire. Donc, une personne est la personne qu'elle est, aussi loin qu'elle peut se souvenir de ses actes. Donc ça, c'est la position très simple, c'est la position de Locke, la première grande position moderne qui dit, bah voilà, c'est très simple, une personne, c'est juste effectivement la somme de ses souvenirs. Les premiers contre-arguments face à Locke, qui vont arriver très tôt, vont être des contre-arguments de philosophes qui d'abord vont s'intéresser à l'enfance, parce qu'on sait quand même depuis longtemps, déjà à l'époque, que l'enfance, la petite enfance a un statut paradoxal, parce qu'un enfant, ça se souvient. Un enfant de 2 ans, par exemple, si vous lui posez une question, il se souvient de quelqu'un qu'il a vu il y a 1 mois. Or, cette mémoire, elle va disparaître, puisqu'on sait très bien, devenu adulte, qu'on conserve à peu près aucun souvenir de ce qu'on a fait avant 4 ou 5 ans. Mmh. Ça pose évidemment un problème, parce que si on tient la position de Locke, ça veut dire qu'on n'est pas la personne qu'on était quand on était enfant. Mais en même temps, l'enfant, lui, il se souvient quand même. Il a sa mémoire, mais cette mémoire, elle va être effacée petit à petit. On sait aujourd'hui, plus ou moins en sciences cognitives, que si la mémoire de l'enfant va être effacée, c'est pour faire place au langage, ce qui est assez beau, je trouve.
Donc, c'est la parole qui vient remplacer la mémoire. Voilà.
Toute la mémoire, en fait, de la toute petite enfance, de la première année, la deuxième, la troisième année, elle va être balayée petit à petit par l'acquisition de formes linguistiques de plus en plus compliquées. Et ensuite, la mémoire va se stabiliser parce qu'on va avoir le langage. L'enfant, il a le langage pour se souvenir. Et donc, on ne va plus avoir simplement ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Mmh. On va avoir une mémoire dite sémantique, qui passe donc par des signes, par des mots. On va non seulement se souvenir d'images, mais on va se souvenir, en fait, bah, on récite ses poésies par cœur à l'école. Et la différence entre mémoire épisodique et mémoire sémantique, c'est assez simple, c'est que la mémoire épisodique, c'est tout ce de quoi on se souvient qui nous implique nous-mêmes. Donc, par exemple, je me souviens que vous m'avez écrit un mail. Par contre, si je me souviens que Christophe Colomb est censé avoir mis le pied en Amérique en 1492, ça ne m'implique pas. Ça, c'est de la mémoire sémantique, en fait. Je peux avoir des images, mais en fait, ce sont des signes abstraits en moi. Et donc, quand ça, c'est l'autre côté de la vie. Après, évidemment, il y a eu des arguments contre Locke qui concernent aussi la vieillesse, parce que ça ne date pas d'Alzheimer. Très vite, on a compris qu'en vieillissant, on perdait de la mémoire. Est-ce que ça veut dire qu'on perd sa personne par lambeau ? Et donc, est apparue la question de savoir, d'abord, première question, est-ce qu'en vieillissant, si je perds ma mémoire, je perds ma personne ? Ce qui est, encore une fois, d'abord une question légale, c'est-à-dire à quel point je suis responsable, à quel point je peux voter, à quel point je suis responsable, je peux sortir dans la rue, je ne vais pas causer des accidents.
Mais par extension, c'est forcément une question morale, du coup. Voilà. Que, si c'est légal, c'est que derrière, il y a la question de la responsabilité ou pas, et donc de la moralité. Et si on dit que quelqu'un n'est plus à partir du moment où il ne se souvient plus, ça ouvre aussi des portes à des, j'en sais rien, à de la maltraitance ou à des choses comme ça.
Mais les deux questions, elles sont quand même décorrélées en partie, parce que c'est une expérience qu'on fait assez souvent, malheureusement, par exemple, avec ses grands-parents quand ils vieillissent. On peut tout à fait dire de quelqu'un qu'il est plus responsable pénalement pour le protéger, et au contraire, moralement, le considérer comme une personne, mais comme une personne fragile, qu'il faut protéger, qui n'est pas forcément responsable de tous ses actes. Le problème, il s'est accru, en fait, au 19e, au 20e siècle, avec des moyens de prolonger la vie. Et des moyens qui ont plongé un certain nombre de personnes dans des états, alors parfois même de coma végétatif, par exemple. Et on a commencé à se poser la question, à partir de quand la personne que j'ai connue n'est plus, en tout cas, cette personne, même si elle est encore une personne, elle n'est plus cette personne, parce qu'elle ne se souvient plus du tout, elle n'a plus de mémoire, ou en tout cas, parce que c'est un peu plus compliqué, je trouve qu'il faut distinguer les choses. Elle n'a plus la mémoire qu'on lui connaissait, elle n'est plus capable de raconter... Mais sa mémoire devient une sorte de citadelle imprenable. Enfin, moi, j'ai souvent eu ces souvenirs avec mon grand-père, l'impression de lui re-raconter des anecdotes qu'il m'avait racontées et d'essayer de guetter dans le regard le moment où il va y avoir encore un tout petit éclat qui fait qu'il n'est plus capable de raconter l'histoire, mais il se souvient quand même que ça a un rapport avec lui. Et sur la mémoire procédurale, il y a des expériences assez belles, par exemple, depuis une vingtaine d'années. On dit, bon, voilà, en gros, c'est fini pour la mémoire des mots. Ça, c'est plus possible. Ça peut plus passer par les mots. La mémoire sémantique, c'est fini. Mais par contre, il y a une mémoire procédurale des gestes qui ont été appris par l'individu qui est plus profonde. Et on va aller la chercher. Par exemple, une danseuse, on va lui repasser une musique du Lac des Cygnes sur laquelle elle a dansé.
Oui.
Et elle va retrouver les gestes, elle va retrouver la chorégraphie. Évidemment, elle n'est pas du tout capable de dire ce qu'elle fait. Et elle se souvient. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que la mémoire, elle est multiple. C'est-à-dire que pour répondre à votre question, on est obligé en fait de multiplier les réponses. Ça dépend quelle mémoire. On peut perdre complètement la mémoire des mots et conserver quand même une mémoire profonde, procédurale, de procédures, de gestes, d'habitudes.
Si vous n'avez pas vu la vidéo de cette danseuse en fauteuil dont les membres se réveillent à l'écoute du Lac des Cygnes et qui esquisse des mouvements imprimés dans son corps, demandez-la moi, vraiment, je vous l'enverrai mille fois. Mais revenons à Tristan Garcia qui a encore quelque chose à nous dire.
Cette réflexion philosophique, elle a pris encore un autre tour au XXe siècle, avec la science-fiction aussi, à partir du moment où on s'est dit, si Locke a raison, si vraiment la personne c'est la mémoire, qu'est-ce qui se passe si on change la mémoire de quelqu'un? Est-ce qu'on change son identité? Et là, il y a énormément d'expériences de pensée qui sont devenues aussi des livres de science-fiction philosophique. Je pense à des œuvres de Philip K. Dick, de Greg Egan, dans lesquelles on change la mémoire de quelqu'un et donc on affecte sa personnalité. Il leur ressort des questions du type « est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est une autre personne ?» Et ça, c'est vraiment à partir des années 30-40, je dirais. Et ça s'accompagne de fantasmes aussi sur le lavage de cerveau.
Et cette science-fiction, elle est rejointe par la réalité quand on voit des expériences de transhumanisme actuelles qui existent déjà, hein, où est-ce que si on est capable de mettre nos souvenirs dans une boîte et de faire vivre une intelligence artificielle avec ou quelque chose comme ça, on peut faire perdurer l'humain au-delà de sa propre mort?
Oui, c'est vrai, il y a ce fantasme. Il y a une nouvelle de Greg Egan qui s'appelle « La boîte », c'est exactement ça. Il y a une bonne arme philosophique en général pour répondre à ces fantasmes. On la trouve chez Merleau-Ponty. Il y a l'idée d'incarnation chez Merleau-Ponty ou d'incorporation. C'est qu'en fait, un souvenir, il ne suffit pas de scanner un réseau neuronal pour obtenir un souvenir. Ce serait à peu près la même chose que de croire qu'on a, je ne sais pas, éternalisé sa mère parce qu'on a pris une photo d'elle. On peut prendre une photo au sens strict, on peut prendre une représentation, on peut scanner par exemple effectivement les réseaux neuronaux et on va être capable de mieux en mieux de les scanner. Mais c'est pas parce qu'on a l'image qu'on a la chose. C'est confondre des objets et des événements. La mémoire c'est un événement perpétuel. La mémoire, elle est sans cesse réactivée, elle est sans cesse transformée. C'est pas un stock justement, c'est pas une boîte, c'est pas un tiroir dans lequel on met des objets. Et ce processus, on peut en garder une image, mais c'est pas parce qu'on en a une image qu'on a le processus lui-même. Et ensuite, c'est un processus qui est un processus, justement, pour prendre les mots de Merleau-Ponty, incarné ou incorporé. C'est-à-dire que si vous avez les réseaux neuronaux, mais que vous n'avez pas le corps qui va avec, en fait, vous n'avez pas la mémoire. La mémoire, elle n'est pas dans le cerveau. On sait maintenant, elle est dans le corps tout entier. Si vous n'avez pas le corps, vous n'avez pas le souvenir, en fait. Puisque le souvenir... par exemple, on va prendre un exemple très, très simple, très classique, l'exemple... Proust, quoi. Proust et la Madeleine. Si vous avez une image d'un souvenir, par exemple, du goût ou d'une odeur d'une Madeleine, si vous n'avez pas de nez pour la sentir, vous n'avez pas le souvenir. Donc, on ne peut pas avoir un souvenir qui serait localisé dans le cerveau, qui serait réduit à un objet. Il est forcément lié au sens. il est forcément lié à la sensorialité, au fait d'avoir perçu quelque chose. Et donc, pour être activé, il lui faut un corps. Alors, évidemment, on peut se dire, on va le remettre dans un autre corps. Mais là aussi, c'est la même illusion, c'est croire qu'à partir du moment qu'on va pouvoir prendre une photographie de quelque chose et la transférer dans un corps vivant et que ça va suffire. Je dirais la très très grande majorité aujourd'hui des gens qui s'intéressent à la mémoire en philo ou en sciences cognitives considèrent ces expériences vraiment comme de la mauvaise science-fiction. Enfin, c'est pas
des gadgets.
C'est moi je trouve qu'il faut le considérer comme, mais j'ai aussi du respect pour ça. Après, ce sont plutôt des gens riches qui le font en général. Il faut les moyens. Mais c'est au sens strict de la magie qui est liée. C'est pas différent d'un peuple qui va avoir un rapport à l'âme, par exemple, qui va utiliser un fétiche et qui va invoquer l'esprit des morts pour essayer d'animer un fétiche. C'est la même chose. C'est de la magie avec des outils techniques, mais c'est exactement la même chose. Ça a pas plus de valeur, en tout cas, que ça.
Justement, vous parlez de peuple, et moi, quand j'interviewe des personnes âgées, je pose beaucoup la question de la mémoire collective. Et on a souvent eu des peuples qui ont essayé d'effacer la mémoire. Par exemple, quand on parle des Inuits au Canada, on raconte à quel point il y a eu un objectif du gouvernement canadien pendant des années d'effacer les traditions, d'effacer la mémoire, de couper les enfants de leurs grands-parents, de couper cette transmission. Est-ce que, pareil, dans la mémoire collective, fait un pays ou fait un peuple ou fait un collectif, tout simplement? Est-ce que sans mémoire, un collectif peut exister?
On a très vite compris, c'est très vite un proverbe, que ce sont les vainqueurs qui font l'histoire et que ce sont donc eux qui maîtrisent la mémoire. On a très vite compris aussi que c'était en général les vainqueurs dans une guerre qui allaient imposer leur langue et que imposer sa langue, c'était aussi imposer sa mémoire. Et c'est quelque chose, en fait, qu'on a redécouvert au XXe siècle, peut-être avec des luttes d'émancipation, qu'on savait depuis longtemps. La nouveauté, peut-être, c'est qu'au XXe siècle, c'est passé aussi par des théories décoloniales, mais aussi, je pense à la théorie féministe, qui très vite s'est intéressée à la question de la mémoire des femmes, à la différence, par exemple, entre des savoirs oraux qui se passaient de mère en fille et des savoirs écrits qui étaient plutôt maîtrisés par les hommes. Et parfois, ces temps-ci, on oppose l'histoire en dur ce qu'on appelle parfois, ça sonne pas très bien en français, l'histoire molle, c'est la soft history ou l'histoire douce, qui serait une histoire qui passerait justement par la mémoire orale, par la mémoire familiale, qui est très très compliquée pour les historiens. Ça suppose une reconstitution, d'utiliser de la psychologie, le féminisme entre autres a permis de penser le fait que l'histoire telle qu'elle se constituait, telle qu'elle s'écrivait, évidemment elle était partielle. Mais même l'archéologie, elle l'était aussi, qu'elle favorisait certains matériaux plutôt que d'autres, et que donc la mémoire, forcément, elle dépendait de son support. Et qu'il ne fallait pas croire, c'est quelque chose qu'on sait maintenant, qu'il ne fallait pas croire que c'est parce que une mémoire collective ne va pas avoir de support écrit, qu'elle ne peut pas être étudiée. Et par exemple, toutes les études du folklore permettent au contraire de revenir vers, vers des savoirs oraux, oralisés, dont on sait qu'ils sont forcément transformés de génération en génération, mais c'est une mémoire collective aussi, alors qui très souvent concerne justement ceux qui ont été défaits dans l'histoire. Je pense à la mémoire des esclaves, par exemple, qui vont se réunir dans des quilombos au Brésil et qui vont pas avoir de tradition écrite, mais qui vont avoir une tradition orale qui passe par des mots, mais aussi par des gestes codés pour échapper à la surveillance des maîtres. La capoeira aussi, qui est aussi une mémoire de gestes, de résistance, des chants. Et on sait que la musique, les gestes, la danse sont d'autres formes de mémoire qui, bien souvent pour des dominés dans une situation de colonisation ou pour les femmes aussi en situation de domination masculine, ont permis de maintenir une mémoire collective qui, n'était pas forcément en dur. Et je trouve que c'est aussi un bon antidote au fantasme, disons, post-humaniste où la mémoire, elle est vraiment en dur. C'est-à-dire, on ne croit à la mémoire que lorsqu'elle est sur des circuits imprimés. On croit qu'on ne conserve quelque chose que si on arrive à en faire, à le scanner. Et c'est parce que très probablement que certaines choses qu'on scanne aujourd'hui auront une durée de vie beaucoup moins grande que des choses simplement qu'on se transmet par des mélodies fredonnées, par des gestes qui sont transmises dans les familles. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a les supports technologiques, ils ont une péremption telle que si ça se trouve dans deux ou trois générations, il y a des choses qu'on a enregistrées sur disque dur qu'on sera plus capable de lire. Donc, cette mémoire-là, en fait, qu'on croit éternelle parce qu'elle est en dur, si ça se trouve, elle sera inaccessible.
Cette mémoire de ceux qui ont été marginalisés, invisibilisés, on la recueille parfois dans Vieilles Branches. Je pense notamment à Daniel Defer, qui nous parlait de ses années SIDA, lui qui a fondé l'association Aide, et du manque que c'est, pour une société tout entière, d'ignorer des pans de sa mémoire.
Mais j'ai été pratiquement 3 fois par semaine au Père Lachaise, enterré des membres de Aide. Et en plus, c'est l'enterrement très insupportable, parce que presque tous se sont fait incinérer. Moi, j'ai une espèce de difficulté. Ça, j'avoue que j'ai du mal à comprendre la mort. C'est-à-dire, je ne voudrais pas être brûlé. J'ai l'impression que je voudrais pas cette souffrance-là. Vous voyez, j'ai du mal à comprendre la mort. Et donc, je me fais enterrer. mais j'ai été bon 3 fois par semaine et quelques fois même au crématorium, aller au départ du cercueil et puis attendre aussi les amis qui reviennent avec l'urne. Même un jour, un ami que j'ai emmené à Vézelay chez moi, il est arrivé avec l'urne, on a eu sur la cheminée pendant 8 jours, là, d'un ami que j'avais connu. Bien, bon, c'est vrai, j'avais cette fréquentation quotidienne. Et puis, j'ai fait un cours, parce que j'avais quand même, je passais tout mon temps à Aide, donc j'avais du mal à assurer quand même un contenu spécifique pour mes cours. Mmh. Alors je me dis, je vais faire un cours sur la sociologie du SIDA et tout ça. Bon, donc je fais un cours, je dis comme ça, j'aurai moins de travail. Ce qui me sert pour Aide va me servir pour mon cours. Et mon cours, bon, je peux le dire maintenant, je disais pas publiquement à l'époque, mais ça fait 30 ans, les séropositifs de la fac sont liés à mon cours. Et je me suis retrouvé constitué dans la fac un groupe de parole. Et j'ai eu un cours de séropositif avec une infirmière extraordinaire qui a été longtemps infirmière-chef. Et du coup, ils sont tous allés dans son service. Elle les voyait en cours et elle les voyait à l'hôpital. Et la plupart de mes étudiants sont morts aujourd'hui. Et je me rappelle toujours qu'un collègue me dit « Alors, Defer, tu fais quoi comme cours ?» Je lui fais un sociologiste. « Ah, toujours des sujets à la mode. » J'aurais tué. J'ai toujours, souvent eu envie de tuer des gens, mais je me suis toujours retenu. Bon, je sais pas, je le ferais peut-être quand même avant de mourir.
Je pense que c'est...
mais vraiment, l'idée, sujet à la mode, aucune idée que, étant donné quand même l'importance de la toxicomanie dans 93... qu'il y avait des utilisateurs de drogue injectables parmi nos étudiants, puis il y avait des gays, et je veux dire, j'avais un cours de séropositif, c'était devenu un groupe de parole.
Et si je vous le cite aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'en l'occurrence, tous les militants des années SIDA le disent depuis le début de la pandémie du coronavirus. Si on les avait écoutés, si leur combat avait été pris en compte dès le début de la gestion de la pandémie, alors on aurait pu éviter bien des erreurs. Et pour poursuivre cette réflexion sur la mémoire collective, sur les mémoires effacées, qui empêchent parfois de se constituer en tant que groupe, je repense souvent à ces phrases de Michel Perrault sur la réaction qu'ont eu ses collègues historiens quand, à plus de 40 ans, elle a décidé de s'intéresser à l'histoire des femmes.
Choquée, non, mais incompréhension, oui. Hein. C'est-à-dire, vous avez fait ou tu as fait des choses très bien là en histoire sociale, pourquoi tu laisses tomber ça? Hein. Pourquoi tu continues pas là-dedans? Qu'est-ce que tu vas faire sur les femmes? C'était pas un sujet. Hein, c'était pas un sujet. Et obscurément, il y avait l'idée que c'était se dévaluer. Que aller travailler sur les femmes, c'était travailler sur des trucs marginaux, sans grand intérêt.
Comment prendre conscience qu'on fait groupe, qu'on peut avoir une parole collective et par extension une lutte quand on n'a pas d'histoire ? En faisant quelques recherches toujours sur le sujet mémoire et identité, je suis arrivée sur les mots d'un grand spécialiste de la mémoire en France. Sans mémoire, il n'y a pas de futur. Il expliquait dans un article que les zones du cerveau consacrées à la mémoire sont les mêmes qu'on active quand on se projette dans le futur. Ce spécialiste, c'est Francis Eustache, chercheur français en neuropsychologie et en imagerie cérébrale, spécialisé dans l'étude de la mémoire et de ses troubles. Alors je l'ai appelé et je lui ai demandé de me parler de cette mémoire au futur.
Oui, ça c'est un thème, je pense, qui est important. Ce thème de la mémoire du futur ou pensée épisodique future ou projection dans le futur, c'est un thème de recherche assez distribué dans le monde. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont intéressées à ce thème, qui est un thème qui vient en fait des amnésiques. Quand on examine des patients qui ont une amnésie massive, hein, quand je parle des amnésiques, ce sont des personnes qui ont perdu la mémoire, hein, souvent après un traumatisme ou après une lésion du cerveau, ces personnes vont perdre une partie de leur représentation du passé, une partie de leur mémoire autobiographique. Et en fait, quand on discute avec eux, certains d'entre eux, on s'aperçoit qu'ils ont également perdu une partie des capacités que l'on a de se projeter dans le futur. La projection dans le futur est alimentée par le présent, la situation présente, et puis nos connaissances du passé. Mais c'est un voyage, en fait, incessant. Et cette vision des choses dynamise beaucoup le concept de mémoire. Ça reprend l'idée d'une mémoire très plastique, très dynamique, à la disposition de l'identité de la personne, hein, de ses choix, et ça la projette comme ça dans quelque chose qui est beaucoup plus imaginatif aussi.
Et je vais poser une question un peu naïve, mais du coup, est-ce qu'on pourrait se dire que les gens qui atteignent un grand âge, hein, qui est, je sais pas, 90 ans, dans la mesure où se projeter dans le futur, c'est se projeter dans la mort, ou c'est se projeter dans des années qui sont peut-être difficiles, est-ce qu'on a déjà fait un lien entre ça et la perte de mémoire, et le fait qu'en fait, ce souvenir, si on n'a plus envie de se projeter, n'est plus si indispensable?
Alors, les personnes âgées, elles sont pas amnésiques, hein, elles sont pas amnésiques, elles ont potentiellement des petits troubles de mémoire, mais elles sont pas amnésiques. Et quand on parle de personnes très âgées, tout dépend aussi de leur état de santé. Si la personne est malade, effectivement, cette projection dans le futur, elle peut être modifiée. Mais si la personne est en bonne santé, même si elle est âgée, au contraire, j'ai envie de dire, il y a ce qu'on a observé, c'est plus un biais de positivité. C'est-à-dire que la personne va plutôt avoir tendance à privilégier ce qui est positif et à s'orienter vers une représentation du passé et du futur qui est plutôt plus positive, en choisissant à la fois les ingrédients du passé et les objectifs dans le futur qui sont positifs. En choisissant, par exemple, des objectifs peut-être plus proches, plus atteignables. Par exemple, rendre visite à une visite des petits-enfants, ou etc. Vous voyez, des choses comme ça, qui sont plus... ou à des amis. Ou, par contre, tout ça va être biaisé si la personne est malade, si elle est malade, y compris sur le plan psychique, si elle est déprimée, etc. Alors là cet objectif plus positif, hein, qu'on observe, hein, c'est ce qu'on appelle le biais de positivité, eh bien, il va être modifié. Donc... Alors, par contre, chez les amnésiques, c'est très impressionnant, parce que les amnésiques, eux, si on leur demande qu'est-ce que vous ferez dans le week-end prochain ou dans deux jours, on voit que le véhicule, en fait, qui nous permet de voyager dans le temps, hein, qui est assez merveilleux, hein, quand on y réfléchit, hein, on a cette capacité de se projeter très vite. Hein, il suffit que je vous dis, qu'est-ce que vous ferez le week-end prochain? Vous partez le week-end prochain. Vous êtes, même si vous savez pas bien ce que vous ferez, mais vous avez cette possibilité immédiate. Et c'est ce qu'on fait en fait chaque jour, hein, quand on se réveille le matin. C'est qu'est-ce que je vais faire? Alors évidemment, c'est en lien avec ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé les jours passés. Mais on voit bien que notre mémoire, elle va de l'un à l'autre.
Oui.
Et les amnésiques n'ont plus cette capacité. Ils vont vous dire, il y a eu des enregistrements de faits qui sont assez émouvants. Je pense à un patient qui écrit, moi c'est comme si j'étais dans un lac, c'est comme si je nageais dans un lac, mais j'avance dans le lac, mais je vois pas le bord du lac. Vous voyez, c'est une espèce de brouillard perpétuel qui est très angoissant quelque part, parce que perdre le passé c'est une chose, mais ne plus avoir du tout d'objectifs, de destination, c'est être dans un présent constant, c'est très impressionnant, quoi. C'est très angoissant, en quelque sorte.
Oui, je vais faire encore un lien peut-être un peu naïf, mais du coup, comme je sais que vous avez aussi étudié la mémoire des attentats dans le cadre d'une grande étude autour du 13 novembre et du Bataclan. Je vous ai lu dire que le stress post-traumatique, c'était une pathologie de la mémoire et que quand on était confronté à un grand trauma, on était parfois incapable de fabriquer du souvenir. Est-ce que c'est un petit peu la même chose? Est-ce que ça se rejoint?
Alors, ça se rejoint, mais il ne faut pas faire des amalgames non plus. Quand on étudie ce genre de phénomène, on est dans quelque chose qui est complexe. Les amnésiques, c'est une chose. Les personnes qui ont vécu un traumatisme extrême, comme c'est le cas des personnes qui étaient sur les lieux des attaques le 13 novembre 2015, ces personnes-là vont réagir de façon très très différente. Mmh. Il y a des personnes qui vont avoir en elles, et puis aussi grâce à leur entourage, qui vont réussir à développer des mécanismes qui vont les protéger et qui vont continuer à vivre une vie normale, qui vont intégrer cet événement dans leur parcours de vie, même si c'est un événement extrêmement difficile, extrêmement douloureux, mais qui vont l'intégrer. Puis d'autres, au contraire, cet événement lié à l'attentat ne va pas vraiment produire un souvenir, mais va produire des espèces de bribes de souvenirs, des éléments un peu disparates de souvenirs qui vont revenir à sa conscience sous forme d'images vivaces, d'intrusions, ce qu'on appelle des intrusions, c'est-à-dire que ça va être des éléments, ça va être une image visuelle, ça va être un son, ça va être une odeur, etc. Mais tout ça n'est pas construit comme un souvenir. Et à la grande différence d'un souvenir dont on sait qu'il appartient au passé, je retrouve l'ambiance du moment, mais je sais que c'est le passé. Alors que dans ces bribes, ces intrusions disparates qui s'imposent à la conscience de la personne, alors, premièrement, ce n'est pas construit comme un souvenir, je ne retrouve pas le contexte général, et puis, autre grande différence avec un souvenir, c'est que j'ai l'impression que c'est à nouveau le présent. Et donc, on dit de ces personnes que ce sont des blessés psychiques parce que la blessure est toujours béante, puisqu'elle est toujours alimentée par ces intrusions. Et donc, toute la difficulté, c'est de faire en sorte que, justement, que ces personnes, en quelque sorte, acquièrent une vraie mémoire de ce qui leur est arrivé, et que cette mémoire, elle puisse rejoindre le flot, en fait, de la mémoire, le flux de la mémoire, et pouvoir être incorporé à la narration de la personne. C'est là qu'on retrouve la notion d'identité, vous voyez. Oui. En quelque sorte, l'attentat, ou la mémoire de l'attentat, va prendre la place de l'identité de la personne. Et c'est un peu ça, la compréhension qu'on peut avoir de ces personnes dans les formes extrêmes. C'est que la personne, en fait, elle quitte ses intérêts habituels. Tout ça est laissé de côté et puis est remplacé par cette identité qui tourne autour de l'attentat et autour du trauma et qui va avoir pour conséquence aussi de désolidariser la personne de son entourage parce que l'entourage au contraire essaye de ramener la personne à ses intérêts antérieurs et puis éventuellement vers d'autres intérêts qui correspondent au changement de chacun. Alors là, ce que je dresse là, c'est la situation la plus noire. Hein. Malheureusement, ça existe hein, chez certaines personnes et le trauma peut rester présent pendant longtemps chez certaines personnes. Bon, fort heureusement, pour beaucoup d'autres, le chemin est plus favorable et plus positif.
Mais c'est vrai que dans Le Lambeau, Philippe Lançon et dans les procès de Charlie Hebdo, ils ont beaucoup dit que la personne d'avant n'existait plus, que ce qu'ils étaient avant n'existait plus. C'est vrai. Je ne cesse de faire des allers-retours, vous l'entendez, peut-être maladroit, sans doute peu scientifique, entre mémoire collective et mémoires individuelles. Mais si on considère la société comme un grand corps parfois en souffrance, on se dit en écoutant Francis Eustache que pour pouvoir, en tant que société, se projeter dans le futur, pour imaginer la suite, il faut non seulement travailler sa mémoire collective, mais aussi y intégrer les traumatismes collectifs, les plaies, les faire rentrer dans le flux de nos mémoires, pour qu'elles rentrent dans notre histoire et ne nous rejaillissent pas en permanence au visage.
Georges-Paul Langevin comme Greg Germain, dans leurs épisodes, parlent de cette mémoire d'outre-mer ou tout simplement de la mémoire des Noirs en France, si difficile à faire rentrer dans les livres et des dégâts que ces oublis, volontaires ou inconscients, créent.
Tous ces gens qui n'arrêtent pas de dire que la diversité est un drame pour la France et que la diversité vient de la période récente, eh bien, ce sont souvent des gens qui ne connaissent pas l'histoire de France.
Mais parce que cette histoire de France, elle n'a pas été écrite. Celle-là, elle a été très peu écrite et surtout très peu enseignée.
Moi, par exemple, c'est vrai que j'ai appris Alexandre Dumas à l'école, mais jamais personne m'a dit que c'était un mulâtre, enfin un métis.
Et vous étiez à l'école en Guadeloupe.
Ben oui, mais jamais. Je l'ai appris et je l'ai lu, je l'ai appris longtemps après, si vous voulez. Et par exemple, le chevalier de Saint-Georges, qui à l'époque était à la cour du roi et était adulé comme Mozart, pareil, personne ne sait plus que ces gens-là existaient. Le général Dumas.
Il était noir aussi, je le savais pas. Voilà,
le père d'Alexandre Dumas, l'écrivain.
Oui.
Eh bien, il a été général de l'armée française pendant la Révolution. Et par conséquent, nous sommes quand même un pays où il a été possible que des Noirs soient à la cour, soient généraux dans l'armée au XVIIIe, ce qui n'a plus été possible durant les siècles suivants.
Mais qui les a, enfin qui, c'est pas la question, mais à quel moment leur histoire a été effacée? Parce qu'elle a été effacée.
Je pense que déjà, très franchement, Napoléon n'a pas aidé, parce qu'à partir de 1802, il a gommé un peu la présence et les traces des Noirs dans l'histoire de France. Mais, et dans l'armée française d'ailleurs. Alors que si vous prenez le XIXe par exemple, la maîtresse de Baudelaire, pour qui il a fait ses magnifiques poèmes, c'était aussi une femme de couleur, voyez. Mais on arrive à nous enseigner ces poèmes magnifiques sans nous dire qu'effectivement que la diversité était quand même présente dans notre société. Et c'est pour ça que comme on se vit comme une société qui a été exclusivement blanche jusqu'à l'arrivée des migrants dans les années 70, c'est pour ça qu'un certain nombre, une partie de l'opinion a tellement de mal à accepter que cette diversité existe.
Et pour finir cette courte réflexion sur la question de la mémoire et de l'identité, je voudrais vous laisser avec les mots de Michel Perrault sur la mémoire et sur l'oubli. Je lui avais demandé si, d'après elle, on ne se battait que pour sa propre époque.
Non. On est obligé de se battre dans son propre temps parce que les problèmes que l'on a sont les problèmes d'une époque, il faut les résoudre. Et ça, bien sûr, mais... Je pense qu'il y a une transmission. C'est d'ailleurs une transmission à préserver et à cultiver. La transmission, c'est aussi quelque chose, j'allais dire, très important dans l'histoire des femmes. Les femmes ont longtemps été silencieuses, on les voyait pas beaucoup, etc., etc., mais elles avaient quand même une histoire, ô combien. Et souvent, cette histoire est une histoire de transmission.
De
transmission,
savoir.
Mais ne serait-ce qu'à leurs filles. On tolérait d'ailleurs qu'elles transmettent à leurs filles telle ou telle chose. Mais du coup, ça devenait pour elles un devoir, un axe et même un pouvoir. Et je pense donc que ce bel héritage de l'histoire des femmes silencieuses est à revendiquer pour les femmes d'aujourd'hui qui parlent. Il faut aussi...
Elles ont à transmettre.
Et les femmes d'aujourd'hui ne se battent pas que pour elles. Elles se battent pour celles qui vont venir après. Il faut savoir que on est loin d'être au bout de l'histoire des hommes et des femmes, bien entendu. C'est une histoire de si longue durée, avec des structures que Françoise Héritier a montré, tellement inégalitaires qu'elles sont loin d'être réglées. Quand on regarde le monde entier, quand on regarde ce qui se passe dans le monde et qu'on voit ce que telle jeune femme du Pakistan, qui a failli, alors là pour une question de blasphème, mais a failli être lapidée en quelque sorte, quand on voit ce qui se passe dans le monde, les femmes sont opprimées. L'oppression demeure. Et par conséquent, nous ne nous battons pas uniquement pour les femmes occidentales, on se bat pour l'ensemble des femmes du monde. Et ces choses-là, il faut les transmettre.
Et justement, la transmission, c'est quand même un rôle clé des historiens de l'histoire.
Ah oui.
L'histoire,
oui.
Qui se bat contre la nuit. J'ai entendu cette belle formule.
Se bat contre la nuit.
L'histoire se bat contre la nuit.
Oui, l'histoire se bat contre la nuit et contre la nuit qui tombe toujours. La nuit tombe.
Engloutie.
et par conséquent, c'est en effet toujours à recommencer. Mais recommencer pas exactement au même stade. On se recommence des processus, mais à un stade différent. Et l'histoire, là, joue un rôle important. Et c'est sans doute ce qu'il y a peut-être de réconfortant à faire l'histoire des femmes, c'est qu'on se dit que ça doit, ou ça devrait, ou ça peut servir aux femmes. Voilà. Parce que l'oubli, c'est vrai que c'est très... L'oubli revient toujours. C'est comme si la mer se refermait à nouveau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il faut rappeler, en effet, que les choses n'ont pas toujours été comme ça, que des victoires ont été remportées, que c'est fragile, que... oui, il faut continuer à raconter.
Alors oui, continuons à raconter. Merci à mon père et à ma mère qui l'a enregistré, à Jeanne Lacaille qui a lu les mots de Laure Adler, à Tristan Garcia, à Francis Eustache, à Michel Perrault, à Georges Paul Langevin, à Daniel Defer et à toutes les vieilles branches qui veulent bien me raconter. Vieille Branche est une émission de nouvelles écoutes présentée par Marie Misset, mixage Laurie Galligani, réalisation, coordination et prise de son Marine Rowe. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts, à nous suivre et à nous écrire sur Twitter @_vieillebranche ou alors sur Instagram @vieillebranchepodcast.
À bientôt dans Vieille Branche.